Hey!
Hello!
Quand on te lève...
Faisais pas un soft open?
Ben, c'est ça, on le fait, là.
Ah, fuck! There it is.
Ouais,
tabarnak.
Fait longtemps.
Boy, que je me souviens plus comment ça marche.
Il y a de la poussière partout.
Faut que je parle où, là?
Des toiles d'araignée après toi, mon Jay.
Tabarnak, man.
Fait trois mois qu'on...
Eric, j'ai une job.
Quoi?
J'ai une job.
Pour vrai?
Ouais.
Voyons donc.
Oh, ça reparle une autre fois.
On va en parler une autre fois, effectivement. Alors, Ricky J, de retour pour Quand on te lève. Oui, oui, après cette petite pause, ce petit détour hein, dans notre route qu'on va bientôt vous expliquer prochainement. Mais avant ça, avant de justement prendre une petite pause, on avait pris des engagements. Et un de nos engagements, ben, c'était de faire une entrevue avec une artiste, une militante, une humoriste.
Beaucoup, bien sûr.
Alors, nous avons eu la chance, grâce à Jay, ses contacts du web, de parler avec Madame Coralie Laperrière. Alors, on va vous faire écouter ça dans quelques minutes. Alors, une entrevue qu'on a vraiment eu du plaisir à faire avec elle, qui nous a permis aussi de faire une première entrevue à Canton de l'Eff. Alors, c'est aussi une première.
Oui, puis on a dérapé un peu du core, mais on a parlé beaucoup de choses que je pense sont importantes de couvrir.
Ouais.
Qui sont pas discutés nécessairement du côté de la gauche, du côté genre, tu sais, genre, il y en a en tabarnak des podcasts, l'humour, mais il y en a pas beaucoup sur l'humour de la gauche, puis c'est quoi être gauchiste, etc.
Alors,
fait que c'était vraiment cool. Beaucoup de sujets, puis on espère que vous allez aimer ça.
Alors, bonne écoute! Alors, on va y aller directement dans le croquant. Alors, mesdames et messieurs et tous les autres, entre tout ça, eh bien, c'est fait. Nous avons notre première invitée à Canton de l'Eff, mesdames et messieurs. Et alors, je la présente. Alors, nous recevons, en fait, aujourd'hui, Coralie Laperrière. Alors, on a la description selon le site de son agence, en fait. Alors, Coralie Laperrière est une artiste polyvalente, humoriste, autrice, chroniqueuse, animatrice et même actrice. On peut la voir régulièrement fouler les planches des soirées d'humour de la province.
Non, t'as fait actrice?
Oui, actrice.
Non, je la laisse pas passer, là. Je la laisserai pas passer, Rick, je m'excuse. Là. The fuck, c'est une actrice.
C'est une actrice. C'est une actrice, mais qui peut être triste parfois. Elle foule les planches des soirées d'humour de la province. Elle est même venue récemment, je pense à Sherbrooke, au refuge des blagueurs, au refuge des brasseurs. Elle est reconnue pour son humour aux touches politiques, absurdes et irrévérencieuses. Vous l'avez déjà vu à la télévision dans le cadre des émissions Le Prochain Stand-Up ou Rose Battle, ou entendu une de ses chroniques sur les ondes de CSM dans l'émission Le Chant des sirènes ou dans la balado de Fred Savard. On le salue. On peut également lire ses chroniques d'opinion dans de nombreux blogs et sur le site du média gratuit 24 heures, et Coralie est également cofondatrice et co-animatrice du podcast humoristique et féministe Farouche, qui est enregistré en direct devant public. Alors, bonjour Coralie Laperrière!
Bonjour!
C'était un bon bio, ça. On a-tu fait le tour pas mal? Là?
Oui, c'est pas mal le tour pas mal. Le refuge des blagueurs, ça, je m'en viens, par exemple.
Ah, c'est ça!
30 minutes au Ciboire en début janvier, puis là, je m'en viens au refuge des blagueurs, je pense, le 13 avril.
Hey, mon Dieu! Hey, c'est la première fois qu'on a une entrevue avec quelqu'un qui était
passé dernièrement.
Exactement. Faudrait que l'éditeur se dépêche à faire le montage de cette entrevue-là pour être sûr que ça sorte avant sa présence. Comme ça, on va pouvoir monnayer là-dessus.
C'est
fantastique. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Coralie, d'être avec nous et aussi, surtout, d'être la première personne UDA sur Canton de l'Eff. Ça aussi, moi, depuis des années, je trouve que c'est un rêve pour moi d'accumuler des points.
Tu faisais le tour un peu, puis j'étais comme « Fuck, fucking plus famous que nous autres. »
Oui, ouais, effectivement.
Puis c'est ça qu'on dit avec ta marque aussi, c'est comme « Attends, vas-tu nous avoir une facture après, là? » Shit.
Ah, mon Dieu. I wish, moi aussi, je suis pauvre, mais non, ça va pas.
Alors, Coralie, ben, tout d'abord, c'est ça. Alors, comme je le disais, merci d'être là encore une fois. Est-ce que tu... Je sais que c'est par les réseaux sociaux que toi et notre page, animée par Jay, se sont rencontrés. Jay, raconte-moi donc le contexte. En fait, pourquoi on parle avec Coralie aujourd'hui?
Ben, honnêtement, je te dirais que dans les débuts de Canton de l'Est, quand j'ai starté les réseaux sociaux, j'ai essayé de... Ben, tu sais, c'est sûr qu'Instagram, il propose plein de personnes. Mais Coralie, c'est une amie à moi qui m'a envoyé sa page pour me dire « Hey, c'est une personne que je connais directement. » Puis, tu sais, Coralie, on pourrait parler hors honte de cette connexion-là, si tu veux. Mais qui dit « Ah oh, non, puis tu sais, c'est dans les pages, tu devrais suivre. » Puis, c'est rapidement devenu un genre de OK, non, genre, ça se fait encore. Genre, tu peux, tu sais, ce que Canton de l'Est veut faire, l'espace qu'on veut prendre dans l'espèce de culture mémétique, drôle, humour, mais quand même sérieuse, parler de vraies affaires de gauche, il y a de l'espace pour ça. Puis c'est un peu, tu sais, moi, je follow sur ma page personnelle depuis un bout, puis sur Canton de l'Est, Je sais pas que quand est-ce que j'ai commencé à vraiment... Quand on a commencé à interagir ensemble, j'ai pas vraiment vérifié non plus, là. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il y avait de quoi qui touchait à l'environnement, qui me faisait chier, genre, je le forwardais. C'est comme... C'est vrai. Écoute, c'est parce que c'est comme... C'est pas dans ma voix, tu sais, c'est pas dans notre lane. C'est pas où ce qu'on focus. Fait que, tu sais, on parle beaucoup dans tout ce qui est de gauche, on parle beaucoup de l'environnement, mais... de faire des liens entre les ouvriers et l'environnement, on n'a jamais vraiment eu la chance de le faire. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool de t'avoir aujourd'hui. C'est, je suis sûr qu'on va découvrir plein de belles choses à ce sujet-là. Fait que voici mon intro un peu que j'ai juste mis ensemble avec du duct tape.
Puis, exactement, parfait. Ben Coralie, justement, toi de ton côté, d'où vient en fait... je pense que ma première question, c'est d'où vient ta politisation? Je pense qu'on a tous un moment dans notre vie où ce qu'on fait comme, OK, vraiment, le monde est en feu. Toi, c'était quand, en fait? Quand tu as voulu commencer vraiment à passer un message avec ton humour et la politique?
Hey, moi, ça fait tellement longtemps. Je suis vraiment, vraiment un enfant qui est tombé là-dedans. Là. Tu sais, genre moi, j'ai comme j'ai l'impression que je suis comme Denis Coderre, là, mais version de gauche là. Mais tu sais, genre en deuxième année, je suis devenue présidente de classe. puis j'étais comme OK, on va changer le monde en deuxième année primaire. Après ça, bon, ça a diminué. Puis là, je me suis vraiment repolitisée aussi. Moi, j'ai grandi avec Infoman. C'était vraiment un rendez-vous télévisuel chez nous. Fait que tu sais, comme j'ai vraiment. Puis tu sais aussi, moi j'ai 28 ans. Fait que pour moi, tu sais, toutes les années 2000, il y avait beaucoup plus d'humour politique aussi à la télévision. Il y avait des émissions à ma TV, il y avait les parlementeries, tu sais, il y avait comme vraiment plus d'émissions d'humour. Fait que j'ai vraiment tout le temps baigné là-dedans. Puis en 2011, quand il y a eu, dans le fond, la remontée des conservateurs, puis que les conservateurs ont gagné majoritaire, puis il y a eu la vague orange. Moi, dans le temps, j'étais bien indépendantiste. Ce n'est plus vraiment le cas, mais je suis plus anarchiste qu'indépendantiste. Mais back then, en 2011, à 14 ans, 15 ans, j'étais genre, ben là, j'étais en crise que le Bloc se fasse battre, puis que le fédéral revienne. Le fédéralisme revienne vraiment au Canada. Fait que là, j'étais comme, ben tabarnak, je vais commencer à militer. Puis j'ai commencé à militer dans le fond dans le MPQ, le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec. Puis j'ai commencé à militer avec eux autres en 2011. Puis après ça, bon, 2012 est arrivé. Là, je me suis radicalisée. Puis là, j'ai passé de genre la police est gentille à fuck la police. Puis c'est ça. Puis après ça, ben j'ai je suis juste un peu rentrée là-dedans. J'ai milité pendant un moment là, de 2011. C'est quand même assez activement de 2011 à peut-être 2015, jusqu'à temps que j'ai fait mon premier burn-out militant. Après ça, j'ai pris une petite pause. J'étais allée à l'école de l'humour, j'ai fait mes affaires, j'ai commencé à rentrer ça plus dans mon art. J'ai recommencé à militer en 2019 avec Extinction Rebellion, jusqu'à à peu près 2021. J'ai refait un burn-out militant. Puis là, je suis plus en mode... pour être plus sustainable puis être durable dans mon militantisme, ben là, c'est plus dans mon art que je fais du militantisme. Mais au final, je fais quasiment autant de manifs, c'est juste que je les organise moins. Fait que, ouais, c'est ça à peu près vite de même, là, mon parcours politique.
Ah, ben ça me faisait penser. Moi, il y avait une question qui m'a popé dans la tête, puis je trouvais vraiment full songer. Là. Mais s'il faut que je l'explique, je vais me sentir mal d'avoir posé la question. Là. Mais qui est venu en premier, Lanard ou Coco? Genre, est-ce que c'est l'humoriste ou l'anarchiste qu'on a connu en premier chez toi?
Ben, ça va être Coco, mettons, parce que moi, mes deux parents ont fait l'École nationale de l'humour.
Ah!
Fait que, ouais, je suis le premier bébé de l'école. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été comme... J'ai pas toujours voulu être humoriste, mais, tu sais, ça a toujours été drôle chez nous. Ça a toujours été ma façon de m'exprimer, mon moyen de défense aussi. Fait que c'est sûr que l'humour a toujours pris une grosse place. Puis l'anarchisme est arrivé à peu près, justement, là, en 2012. Puis, tu sais, j'étais encore indépendantiste. Ça s'est vraiment arrivé, tu sais, justement... À 18-19 ans, là, j'ai commencé à être plus anarchiste. Puis à m'amener, c'est quand, dans mes réseaux sociaux, c'est quand je militais que j'ai fait comme... Hey, je parle tout le temps d'anarchiste, puis c'est drôle que je m'appelle Coralie, puis ça fait Coco. Puis j'étais comme, je m'appelle-tu Anarcoco? Puis dans ce temps-là, j'avais peut-être genre, je sais pas, là, 600 personnes là, sur Instagram. Là, j'avais vraiment pas autant de monde, puis tout le monde était comme, oh oui, appelle-toi Anarcoco, c'est drôle. Puis là, ben c'est resté, puis là, maintenant, ben je suis pas pognée avec, mais ça me fait rire que ça soit ça mon nom. Puis maintenant, quand je fais des... Tu sais, quand j'ai fait, mettons, le prochain stand-up, là, puis juste pour rire, devait taguer Anarcoco, ça me faisait très rire. D'obliger juste pour rire à parler un peu d'anarchisme. Fait que, là, c'est juste resté.
Avais-tu aimé, on parle de question vraiment random, avais-tu aimé l'expérience? Parce que moi, j'avais fait En route vers mon premier gala en 2009, puis j'avais fucking haï ça, là. C'était une des pires expériences de ma vie parce que j'ai fini dans le montage des gens qui se plantent.
Ah non!
Ben oui, parce qu'il y a toujours du montage. Là. Fait,
ouais,
que,
ouais.
Fait que non, mais ton expérience, ça s'est-tu bien passé avec ce que tu avais apprécié de le côté reality TV un peu de l'humour? Là.
Ah non, vraiment pas. J'aime vraiment pas les compétitions, puis surtout en humour, là, puis surtout quand tu fais de l'humour engagé, puis surtout quand t'es une femme, c'est comme, oublie ça, il n'y a personne de ton bord. Là, quand moi j'avais fait... le prochain stand-up, la première ronde c'était passé correct, j'avais été sauvée par le public. La deuxième ronde, j'avais parlé de féminisme, puis j'étais comme plus allée vraiment dans une présentation de mon féminisme.
Ben, tu profites de la tribune qu'on t'offre à un moment donné aussi, là, tu sais.
Ben oui, exactement. Puis tu sais, là, je m'étais fait dire, mettons, par genre Louis Morissette, là, il était comme, ah, oh, mais là, tu parles trop contre les gars, puis... T'es pas rassembleur, ton féministe. J'étais comme, hey, je m'en calisse de ce que pense Morissette. Fait que, ouais, au final, c'était une drôle d'expérience. C'est nice parce que tu fais de la télé, puis là, les gens, après ça, te prennent comme un peu plus au sérieux après. Mais honnêtement, tu sais, moi, me faire dire par Louis Morissette que mon féministe n'est pas le bon, je m'entorche un peu, là.
Et juste pour reculer un peu, justement, t'as mentionné tes burn-out militants et qu'après ton premier burn-out militant, t'es allé à l'école de l'humour. Est-ce que ça a été... Est-ce que pour toi, c'était plus une façon de dire « je dois passer à d'autres choses, je dois essayer quelque chose d'autre, je vais aller dans la voie familiale de l'humour » ou où il y avait quand même un but un peu activiste à quand même aller faire de l'humour?
Ben c'est sûr, ça a toujours fait partie de moi. Là, okay. J'allais pas faire de l'humour pour faire des jokes de camping. Là, okay. Ça allait vraiment pas être mon cas. Mais quand je suis arrivé à l'école de l'humour, quand je me suis inscrit à l'école de l'humour, en fait, l'année d'avant... je sortais avec un humoriste, puis je m'étais essayée à l'école de l'humour comme autrice, puis j'avais pas été acceptée après le stage, puis ça m'avait vraiment fait de la peine. Après ça, je suis rentrée à l'université en philosophie, puis après ça, j'ai fait un gros accident de vélo, puis là, j'étais comme, je pouvais pas aller à l'école, j'étais toute comme fuckée, puis là, j'ai vu encore les auditions repopper dans mon Facebook là, de l'école de l'humour, puis j'étais comme, oh! Je vais me réessayer, ça, tant qu'à faire. Puis là, je me suis essayée autrice puis humoriste. Puis finalement, j'ai été acceptée dans les deux. Fait que j'ai juste fait ça. Mais c'était pas, il y avait pas tant de tu sais, je m'étais pas dit, oh, je vais aller militer puis faire de l'humour. Tu sais, c'est comme, c'est tout le temps quelque chose qui est arrivé en même temps. Puis c'est super dur quand tu commences aussi de faire de l'humour parce que t'as vraiment ta vision de qu'est-ce que tu penses que tu veux faire, puis c'est jamais la bonne, parce que c'est normal quand tu commences de l'humour, quand tu commences à être un artiste, t'es pas encore l'artiste que tu voudrais être dans 6 ans, tu sais, fait que 6-10 ans. Fait que c'était tough au début, là, de vouloir parler de ces sujets-là tout en faisant de l'humour, parce que, ben, c'est ça, j'étais un petit peu malhabile, là, j'étais un petit peu un enfant qui essaie de marcher, mais tranquillement, pas vite, là, ça s'est peaufilé.
Je file un peu la vibe parce que je passais un peu par le de quoi de similaire, mais avec la musique. J'avais un band, puis justement, l'espèce de compétition qui se fait entre bands de débutants, puis c'est-tu la bonne étape, c'est-tu la bonne chose à faire. Puis c'est une question de avec qui tu joues, avec qui tu connais, puis c'est tous des clubs qui se fait, puis des chums. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est quelque chose quand on commence, honnêtement.
Dans ton quand tu as parlé un peu de ton upbringing en humour, Coralie, tu as parlé un peu de... Ça, c'est là-dessus qu'on peut se rejoindre beaucoup, les parlementeries, tout ce phénomène d'humour un peu plus politique qu'il y avait dans les années 2000 et tout ça. Trouves-tu justement qu'aujourd'hui, on a comme perdu un peu cette vibe-là politique dans l'humour? Tu sais, on avait un Pierre Légaré qui faisait quand même de l'humour politique. On en avait, ben on peut... Bon, là, j'ai envie de parler de Guy Nantel à ses débuts, là, mais bon, pas aujourd'hui. Mais bref, c'est ça, il y avait comme de quoi de beaucoup plus humoriste, justement, la parlementaire, qu'on riait du concept de politique, mais qu'on on faisait quand même quelque chose qui était un peu pour la vulgarisation, pour expliquer aux gens. Est-ce que là, on a perdu ça au Québec, cet humour-là ou cette envie-là d'apprendre des choses en allant voir un show d'humour?
Complètement. Moi, je pense que surtout au niveau de l'humour mainstream, là, je dirais, comme il y a, tu sais... Je pense qu'au niveau de l'humour plus underground, c'est du monde qui existe encore, puis encore vraiment plein d'humoristes super drôles qui vont parler d'enjeux sur scène, puis qui vont y aller avec un niveau engagé aussi. Mais le niveau, c'est ça, parlementerie des années 2000, il y avait les apartistes aussi, puis tout ça. Ben, c'est ça, par exemple, je trouve que ça, c'est vraiment disparu là du mainstream. On dirait qu'on veut pas trop choquer, on est très dans le vanné, on est très comme... Je sais pas, je pense que c'est vraiment disparu, puis j'en parle souvent avec des collègues humoristes, puis c'est drôle parce qu'on a souvent pas la même vision des choses, mais il y en a qui disent « Ah, bon, tu sais, c'est vrai qu'on parle des enjeux quand même plus », puis je trouve que on en parle un peu comme on commente la météo, tu sais, quand on entend parler des gens qui vont dire, mettons, les hommes, les femmes, puis les personnes entre les deux, ben c'est comme juste s'ils disaient « Ah, il fait beau aujourd'hui », tu sais, ils vont pas aller avec une espèce de militance, là, derrière, de dire comme « OK, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens que les gens soient transphobes. Je trouve que tatata. Tu sais, je pense que les gens se mouillent pas. Fait que je pense qu'on parle plus de certains sujets, mais que les gens se mouillent vraiment peu dans ces sujets-là. Puis que le côté engagé qu'il y avait, là, dans les années 2000, lui, il est parti, là. Tu sais, t'entends presque jamais. Tu sais, moi, quand je regardais des vieux galas d'humour, tu sais, les vieux grands rires, là, puis tout ça, tu sais, il y avait tout le temps des jokes sur Jean Charest, puis sur la politique, puis sur les libéraux, puis Laurent Paquin en faisait beaucoup, des jokes de même. Puis c'est carrément disparu, là, tu sais, on dirait que c'est rare que les gens parlent contre François Legault, alors que Chris, tout le monde l'a haï, finalement. J'allais juste dire qu'au final, je trouve que ça c'est vraiment disparu, puis c'est vraiment dommage, là. Puis aussi, tu sais, il y a du monde qui a été cancellé, là, si je pense à Fred Dubé, qui était comme une figure de proue pas mal là-dedans. Puis là, ben, tu sais, sa cancellation fait un peu que, comme, ça a fait pouet-pouet. Puis là, ben, comme, toutes les autres personnes derrière aussi, on dirait que le mainstream a eu peur aussi des gens qui sont plus engagés. Tu sais, ils ont peur que, on leur chie dans la pelle ou qu'on dise des affaires qu'ils voudraient pas au niveau des avocats quand je pense à Radio-Canada. Fait que, ouais, il y a vraiment, on est vraiment plus dans le même mood. Puis même quand je pense à Infoman, dans les années 2000, il était vraiment plus. Il gossait les politiciens plus, puis maintenant il est rendu vraiment dans une complaisance qui m'énerve. Là. On a vraiment changé là, de discours. Puis, tu sais.
Ouais, on est loin de Pierre Brassard qui se fait donner une claque par Pierre-Éliott Trudeau là, dans une rencontre. Oui, là. C'est ça, il n'y a plus cette taquinerie-là, même ce gossage-là. Puis effectivement, je pense que tu l'as bien dit, c'est qu'on a peur des poursuites, on va avoir peur du définancement, ce qui est un peu ironique dans une place où on est supposé de pouvoir tout dire. Ben et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'on peut tout dire? Non, non.
on peut tout dire. Je pense que les seules personnes qui sont vraiment censurées au Québec, c'est le monde de gauche.
Oui, bien sûr.
C'est ça qui est drôle. Là, la droite est comme, on peut plus rien dire, mais t'es comme, ok, mais il y a moi un gauchiste qui est dans un média mainstream en ce moment, il y en a pas tant que ça, tu sais, ils ont de la misère. Fait que je pense que oui, le pauvre vrai, il y a un peu de censure au Québec, mais Chris qui est pas à droite est à gauche.
Si Richard Martineau peut dropper de N-bomb hard R sur repeat à Cube Radio, là.
C'est ça.
Il vient me dire qu'ils sont censurés. Là.
Mais
genre,
oui,
puis il l'a fait quoi, 13 fois, je pense, dans 20 secondes. Là, genre, c'était ridicule. Mais c'est ça, il y a la censure, puis le pas vouloir prendre de chance. Puis j'en reviens sur mon point que j'ai un peu patiné tantôt pour parler justement dans la musique, puis dans le punk rock surtout. C'est on est rendu un peu soft. On pourrait sell out. Ce serait bien simple. Tu sais, ce serait simple d'écrire des tunes, puis toi, tu as fait l'École nationale de l'humour. Tu connais la formule de faire une joke de camping?
C'est ça.
Mais on choisit de pas le faire parce que c'est ça a pas d'impact, ça donne rien. Ça serait facile de faire un band ou de partir en humour, justement, puis juste faire des tonnes de camping.
Et de ton côté, Coralie, justement, on vient de parler des choses qu'on peut moins dire. Est-ce qu'il y a des sujets que tu trouves plus difficiles à aborder quand même aujourd'hui, malgré cette ouverture-là, parce qu'on parle de beaucoup plus de sujets, surtout dans les milieux de gauche, dans les milieux plus underground? Est-ce qu'il y a de quoi que tu trouves qu'encore aujourd'hui, on a de la misère à en parler, que ce soit par humour ou même sans humour, là, notamment que ce soit dans ton podcast ou dans tes shows, là?
Ben, je pense qu'on peut vraiment parler de tout, tu sais. Au final, ce qui est autant difficile, surtout avec l'humour, c'est de rendre ça drôle, tu sais. C'est comme, comment tu pognes l'affaire puis la rendre drôle. Tu sais, moi, ces temps-ci, je rode un numéro sur l'avortement. Je pense que je suis vraiment capable de rendre ça drôle. Des fois, les gens sont comme un petit peu choqués. Puis là, je fais la joke de comme, hey, si vous êtes choqués que j'en parle dans une soirée d'humour, imaginez quand j'essaie d'en parler dans un vin fromage, tu sais. Ça fait plus un malaise. Fait que, tu sais, comme, je pense vraiment qu'il y a des sujets qu'on peut tout le temps parler. C'est sûr que, tu sais, je vais tout le temps avoir, tu sais, reste que je suis une femme blanche privilégiée. Fait que, tu sais, il y a des sujets que, ce qui va être plus dur à parler, si tu veux pas, non, tu sais, je voudrais pas être white savior. Tu sais, des fois, il y a des sujets, comme, à un moment donné, j'avais un numéro sur le racisme plus quand je commençais l'humour. Puis, tu sais, aujourd'hui, mettons, j'aimerais ça en parler à nouveau, mais j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce que moi je peux amener avec ça, qui est pas juste white savior, puis de juste comme, hey, je vais vous dire pourquoi faut pas être raciste, la gang, tu sais. Fait qu'il y a des sujets que je pense que c'est juste la position dans laquelle on est qui est plus difficile ou en parler, tu sais. C'est sûr que, mettons, ma co-animatrice de Farouche, Emna Achour, ben, tu sais, Emna est vraiment mieux placée pour parler de racisme, pour parler, du patriarcat, puis de cette intersection-là, tu sais, ce qui va être plus difficile pour les personnes en situation de privilège. Mais je pense que tout le temps moyen d'en parler, il y a tout le temps moyen quand même de dénoncer. Mais, tu sais, c'est ça qui est dur avec l'humour, hein. Faut juste trouver qu'est-ce qui est drôle, puis dans quoi les gens vont embarquer. Puis ça dépend aussi à qui t'en parles, parce que moi, c'est sûr que si je fais des jokes devant des gauchistes, ben là, si je fais des jokes que la police, c'est raciste puis que c'est stupide, ben là, les gauchistes, ils sont crampés pis ils sont d'accord avec moi.
Bon, on est si facile que ça. On a juste à dire que la police, c'est poche pis on rit.
Quand même. Tu fais des jokes de genre, la police, c'est raciste.
Salut gang, à cab, merci, bonsoir.
Mais, tu sais, c'est sûr que si je fais ça, genre, je sais pas, là, dans une soirée d'humour à Bromont, ça va être tristement pas la même
soirée
vibe.
Corpo, hein.
Ouais, c'est ça. Ça va pas être la même vibe. Fait que c'est surtout ça qui est difficile, là, c'est de faire rire les gens qui sont pas convaincus, parce que c'est les gens convaincus qui pensent comme moi, je pense que je vais toujours être capable de les faire rire, mais comment se faire rire monsieur, madame, tout le monde, ça, c'est vraiment une autre paire de manches.
Ben, si j'ai rebondi un peu sur le sujet, mais dans le fond, moi je te donne un peu de background. Moi, je suis un ancien edgelord. Moi, j'ai 36. Fait que, tu sais, moi, j'étais sur Twitter quand c'était encore pas juste correct, mais conseillé de faire des jokes qui faisaient réagir.
Ouais.
Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a dû passer par, tu sais, j'étais en rémission, là, genre, j'ai dû lâcher pour devenir, justement, puis là, tout le monde me traite de woke sans arrêt de mon âge. Fait que j'ai connu un peu le quand on disait ce qu'on veut, puis j'ai réalisé à un moment donné, c'est dans le temps on faisait des jokes puis on disait ouais mais je ferais pas la joke si X était dans la pièce. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais tu le sais pas qui est X dans n'importe quelle pièce, puis tu sais pas quand quelque chose tu peux dire peut faire sentir quelqu'un comme de la marde, genre. Puis c'est vraiment, c'est plate à dire, mais tu sais, en tant qu'homme blanc privilégié, c'est ça que mon empathie a embarqué, puis j'ai fait genre, OK, il y a des mots que je dis juste par simplicité, juste par leur existence, qui blessent les gens. Mais je pense à quel point que, tu sais, il y a des mots, genre justement, homophobes qui se disent pas que, genre, il y a des hommes qui m'appelaient ces mots-là quand je jouais au hockey, quand j'étais jeune. Il y a des hommes qui m'ont montré que c'était correct, puis que, genre, si on traitait un jeune de même, puis, tu sais, l'évolution est comme ça, puis c'est pour là qu'on a justement notre belle masculinité toxique qu'on deal avec à tous les jours. Je pense que la règle de base que moi j'ai découvert pour m'aider dans mon humour, parce que j'aime encore ça, choquer, mais je dis au monde juste de... on pense à Dave Chappelle, mettons. Là, que genre, moi, dans ma tête à moi, de gars de 30 ans, c'est une fucking légende. Là. Mais quand il a sorti 3, 4, 5 spectacles en ligne, que tout ce qu'il faisait, c'est du punch-down, j'ai commencé à me demander, OK, t'es-tu encore capable d'être drôle sans taper sur le monde? T'es-tu encore un bon humoriste? Are you still a good comedian si t'es incapable de faire un show sans taper sur quelqu'un d'autre? Puis là, je pense à, mettons, un humoriste comme Anthony Jeselnik, que lui, lui fait chier le monde. Lui, il fait réagir. Mais il est pas homophobe, il est pas transphobe, il agit pas comme... C'est sûr qu'il y a des jokes qui sont pas acceptables, comme n'importe qui, mais je veux dire, on est-tu encore capable de l'humour, faire de l'humour qui choque sans justement taper sur le monde, selon toi?
Oh mon Dieu, je pense que oui, mais c'est ça, ben, tu l'as dit, là, punch up, punch down, là, je pense que tu sais la règle est vraiment là-dedans, là, tu sais, tout le monde, je pense que tu sais, il y en a qui disent, ah ben l'humour, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu dindon de la face, là-dessus, je suis un peu d'accord, je pense que c'est pas tout le temps le cas, là, tu sais, mettons, l'humour absurde nous prouve vraiment que t'as pas nécessairement besoin d'avoir un interlocuteur un peu sur lequel tu fesses, tu sais, mais c'est sûr que de l'humour de stand-up, mettons, plus traditionnel, tu vas toujours fesser sur quelqu'un à peu près. Puis, tu sais, moi, je pense effectivement que, tu sais, tant que tu punch up, tu peux jamais vraiment te tromper, tu sais, que quand tu punch, tu sais, puis que t'évites de punch down, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment ça un peu la clé là-dedans, parce que, tu sais, quand on voit justement un Guy Nantel, là, qui pense que c'est Yvon Deschamps, mais t'es comme... T'es pas Yvon Deschamps, man, puis t'arrêtes pas de punch down, puis tu vas pas défaire l'ordre établi avec tes jokes de punch down, puis fesser sur du monde qui sont déjà à terre, tu sais. Alors que quand tu punch up, ben là, tu défais l'ordre établi, tu re-questionnes plus le monde dans lequel on est. Fait que, tu sais, je pense que tu peux vraiment rire de tout, tant que c'est ça que tu te mets dans la tête, tu sais. Puis quand, mettons, tu sais, je disais, j'ai un numéro sur l'avortement, ben comme... T'sais, j'en fais là des jokes de bébé mort au final, mais à un moment donné, il faut comme dire, hey la gang, réalisez-vous qu'il y a des femmes qui peuvent pas décider de leur corps, puis que si ça prend des jokes de bébé mort pour que vous réalisez à quel point ça a pas de bon sens, ben je vais les faire ces jokes là, tu sais. Fait que je pense que ça dépend tout le temps du contexte dans lequel on fait ces blagues là, mais je pense vraiment que toutes les blagues sont, tu sais, moi mettons, il y a une soirée d'humour à Montréal qui s'appelle GHB pour Gore Hard Brutal. Mm-hmm. Puis moi j'adore ça aller là, tu sais, puis il y a du monde qui m'ont déjà dit genre, ah, voir que tu vas là, tu sais, leur nom GHB, ça encourage la culture du viol. Puis c'est sûr que pour vrai, genre 90% des humoristes qui vont là, ils font juste en profiter d'avoir un safe space pour faire des jokes racistes, puis sexistes, puis transphobes. Tu sais, ça c'est clair. Puis
si t'es pas capable de le prendre, genre c'est ton problème, genre t'es pas assez tough.
C'est ça, mais tu sais, c'est genre un safe space, un peu d'humour trash, mais moi, j'aime ça aller là pour justement montrer mon humour trash, qui est un humour qui punch up, tu sais. Puis moi, quand je vais là, je veux dire, j'arrache tous à chaque fois, c'est tout le temps vraiment le fun, parce que justement, je peux faire des jokes de bébé mort, puis le monde est avec moi, tu sais, mais je peux aller dénoncer comme ça. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend vraiment tout le temps, mais tu sais, moi, mon humour est quand même assez trash, puis je l'assume, mais je pense que c'est un trash qui rit des bonnes personnes puis qui fesse pas sur les gens qui sont déjà à terre.
Non, c'est ça, faut toujours punch up. Je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu énormément dans l'humour, puis dans la musique, de façon générale, de nos jours. Je parle comme un vieux, là, mais...
Oui.
Pis j'avais une question qui me passe par la tête souvent, puis je voulais juste ton opinion là-dessus. Puis il est pas dans la feuille, mais c'est quelque chose que je demande à toutes les gauchistes que je rencontre.
Yes.
Est-ce que le fait que la gauche, même si on dit pas que c'est rendu populaire, mais l'acceptation, l'ouverture d'esprit, je pense qu'on a fait une très bonne job des dernières années. C'est pas parfait, mais ça s'en vient. On est-tu en train de créer une nouvelle génération de punks de droite à force de genre rendre être woke mainstream? Tu sais, on passe à la popularité des gars comme Andrew Tate. Puis on passe justement à une génération de jeunes hommes blancs qui trouvent pas de chef pantoute. On est-tu en train de faire une nouvelle vague de droite, genre sans vouloir? Puis je pose la question, genre ton point de vue de plus
de gauchiste.
Ouais, de gauchiste plus que de féministe, mais tu peux donner les deux comme tu veux. Ben, je sais que c'est peut-être pas la même réponse.
Ben, tu sais, je pense qu'on a. Il y a le phénomène de backlash là, qu'on dit, là, tu sais, qui est un peu une espèce de retour du balancier. Je pense que, comme en ce moment, on est clairement dans un phénomène de backlash. Ceci dit, je pense pas que c'est de la faute, entre guillemets, à la gauche. Je pense que c'est le contexte genre économique, politique dans lequel on est, qui fait que comme ce backlash-là est comme plus puissant, tu sais. Puis tu sais, au final, les réseaux sociaux puis les chambres à écho sont vraiment allés rendre ça pire, mais aussi le contexte économique, tu sais, si les gens rushent de plus en plus, ben on sait là, comme historiquement, toutes les fois que les gens rushent, ben ils pensent que c'est la droite qui va les sauver, même si c'est la droite qui les a mis dans la merde, tu sais. Ouais. Fait, au final, je pense pas que c'est tant de la faute de la gauche. Après ça, il y a comme une espèce de... Tu sais, moi, ce que j'haïs, j'appelle ça un peu genre du gauchiste de Netflix. Tu sais, Netflix fait comme s'il était full woke en ayant genre des personnages diversifiés dans leur truc. Mais au final, ben oui, là, il y a le personnage de femme noire lesbienne en chaise roulante dans ta série.
More trans black CEOs.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, elle dit genre 4 phrases, puis après ça, Netflix va genre enlever des trucs parce que, tu sais, Netflix va comme penser qu'ils sont woke, mais t'es quand même, non, Netflix, c'est juste une grosse corporation capitaliste qui, au final, tu sais, exploite des travailleurs puis exploite des personnes de couleur comme n'importe quelle grosse machine capitaliste, tu sais. Fait que je pense que ce qui nous nuit plus, c'est pas la vraie gauche, mais c'est le gauche Netflix, là, tu sais, la fausse affaire, le faux wokisme un peu des grosses entreprises. Ça, je pense que ça nuit extrêmement beaucoup parce que ça amène pas les vrais sujets sur la table, tu sais, alors que je pense qu'au contraire, la gauche, depuis que je milite, je trouve qu'on n'a jamais été aussi toutes sur la même longueur d'onde. Puis ça, je trouve ça malade, tu sais, c'est la première fois que je vois des gens qui sont comme et féministes, et antiracistes, et pour la sauvegarde de la planète. Et tu sais, comme qu'on vient vraiment dans l'intersectionnalité, moi c'est la première fois que je vois ça, tu sais, puis je suis assez jeune, puis j'ai l'impression qu'on est vraiment bien placé au niveau de notre combat, qu'on est vraiment plus sur la même longueur d'onde qu'avant, mais effectivement là, tu sais, il y a un backlash en ce moment, puis tu sais, je pense pas que jamais qu'on pourra dire que c'est de notre faute là, s'il y a un backlash, comme ce backlash là serait arrivé d'une manière ou d'une autre, je pense.
Ouais, peu importe, ils vont se créer, mais c'est juste c'est comme, je sais pas, la question, c'est con, mais, tu sais, on fait quoi de tous ces jeunes dudes-là? C'est pas ta job de nous gérer.
On les envoie dans le Nord, travailler
dans les mines. Ben, c'est ça, non, surtout, hein, tu sais, mais je pense que c'est pour ça, nous autres, avec Canton de Left, on est comme, man, si on peut être un talking head de gauche qui représente qu'est-ce qu'eux autres cherchent, tu sais, un peu, c'est je sais pas quoi faire, justement, parce que moi, c'est... Mon militantisme, ça serait bien plus de, genre, faire chier puis d'essayer d'arvirer tout le monde. Genre, j'irais pas m'assigner quelqu'un de droite à cette heure. Mais moi, là, c'est... Je veux radicaliser des libs.
Ouais.
Le plus possible. Puis c'est comme tu dis, le problème, c'est l'espèce de woke Netflix libéral. Puis on parle de punch-up, punch-down, mais il y a une belle phrase, je sais pas si tu l'avais déjà entendue. Mais quelqu'un libéraux te dit, mais là, pourquoi tu m'écœures moi au lieu de quelqu'un de droite? Tu dis, écoute, moi, je punch, je vais à la droite. Si t'es d'un jambe, c'est pas de ma faute.
Ouais, c'est bon.
Moi, je swing à la droite, là, puis le premier que je pogne, là, c'est si t'es là, c'est pas de ma faute. Ouais. Fait que c'est ça, c'est
ouais.
Je sais pas. Je trouve ça curieux, pareil, de voir c'est quoi l'avenir va réserver pour toute cette génération-là, là, genre...
Ah, je suis vraiment d'accord, mais tu sais, c'est comme tout, là, je pense que ça va être une diversité des tactiques, puis je pense qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils soient comme vraiment radicales, il faut qu'ils soient du monde qui soit encore parlable, tu sais, moi, je pense que je suis dans le côté radical slash parlable, tu sais, mais oui, tu sais, il y a une tristesse aussi, puis je pense que, tu sais, l'anarchiste vient comme jouer là-dedans aussi beaucoup, je pense que la communauté a vraiment quelque chose à avoir là-dedans, tu sais, moi, je suis abolitionniste des prisons aussi, puis de la police, puis je pense, puis je compte la cancel culture pour ces raisons-là aussi, tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de triste dans la cancel culture où, tu sais, on va comme, il y a des gens qui souhaitent quasiment que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal n'ait plus d'amis, n'ait plus de cercle social, puis comme je ne souhaite ça à personne, genre je souhaiterais pas ça un tueur en série de perdre tous ses amis puis toute sa famille, tu sais. Fait que je me dis que au final la communauté, si ces gens-là on les échappe pas, parce qu'au final les gars qui tripent sur Andrew Tate puis qui sont masculinistes, la droite, tu sais, il y a des données là-dessus, c'est des gens qui ont pas de communauté, c'est des gens qui ont presque pas de famille, qui ont presque pas d'amis. Je pense que, tu sais, de se battre pour une communauté plus résiliente, plus forte, plus d'entraide, plus d'empathie, ben c'est de ramener ces gens-là un peu sur le droit chemin, parce qu'au final, on le sait que ces gens-là sont isolés, puis tant qu'on se... si on se bat contre l'isolement, je pense qu'on se bat contre cette radicalisation-là de droite.
Ouais, puis très bien dit, très bien dit.
C'est encore une aliénation aussi du capitalisme au final, là, parce que là, c'est ces jeunes hommes-là, ils veulent essayer de réussir dans ce monde-là un peu cave qui nous demande d'avoir un gros char, une grosse maison et tout ça. Fait que le seul moyen, c'est de piler sa tête de l'autre au lieu d'essayer de remonter les autres.
Là. On s'entend que c'est rough et tout. C'est comme quelqu'un de droite ou quelqu'un de très conservateur. Là. C'est parce que c'est de convaincre quelqu'un que c'est pas juste ce que tu penses, c'est pas juste ton opinion. toutes tes valeurs fondamentales qui font la fondation de ta personne, they're fucking wrong. Mm. Genre, mm-hmm. tu sais, c'est de réaliser ça. Puis je donne un exemple que je donne souvent. Moi, quand j'étais plus jeune, mon père, il donnait des tapes face à ma mère sans rien dire, sans l'avertir. Puis moi, je pensais que c'était bien normal en couple. Puis moi, c'est ça, ça a été une claque d'en face à 25 ans, quand il y en a une qui m'a dit « Hey, sais-tu quoi? Il y a fucking personne qui aime ça quand tu fais ça. » Je suis comme « Ah, OK, excuse-moi. » C'est toujours des claques d'en face de comme, genre... Puis je sais que je chiale en tant que, like, from a position of power. C'est mon podcast, puis c'est moi qui jase, là. Mais je trouve ça ridicule, quand même, qu'on n'ait pas d'idée où est-ce qu'on va quand on parle des fois, là.
Mm-hmm.
Ouais. La prochaine question, Eric.
Hey Coralie, je voulais qu'on parle un peu de ton podcast. J'aimerais que tu nous parles un peu de la genèse derrière la création du podcast Farouche que tu co-animes avec Emna Achour et qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Allez écouter ça. Mais bref, d'où c'est venu? J'ai l'impression que c'est un peu comme... Ben, c'est sûr que là, c'est pas un peu la même chose que nous, parce que nous, c'est encore deux hommes blancs qui font un podcast. Mais de ton côté, vous, d'où c'est parti? Vous faites ça devant public. Vous avez des invités fantastiques. J'ai écouté, par exemple, l'épisode avec Martine Delvaux. Toujours très intéressant de l'entendre. Bref, d'où c'est venu, les Farouches?
Ah, ben, ça vient que Emna, en fait, un moment donné, était comme « Je veux faire un projet avec toi ». J'étais comme « Let's go ». Moi, quand quelqu'un me dit « Je veux faire un projet avec toi », je suis tout en dents. Des fois, je dis oui à trop d'affaires, mais ça, c'est un autre problème. Puis là, elle me dit « On fait un projet, tu sais, féministe ». Puis c'est ça. Puis on a commencé à brainstormer des idées. On a fait la première au Minifest. T'sais, on voulait vraiment un projet genre... c'est féministe, politique aussi, tu sais, on justement là, nous on a vu les Daily Show puis Infoman et compagnie, pis on était comme hey, on veut comme ça mais d'un point de vue féminin, tu sais, parce qu'on voulait pas aussi, tu sais, on parle pas juste tu sais, dans Farouche, on c'est pas genre féministe féminin, genre le féminin sacré, puis c'est comme parler de se faire des faux ongles, tu sais, même si on peut en parler aussi de glitters, mais on voulait vraiment parler de politique puis de féminisme. Fait que ça s'est vraiment juste arrivé qu'on a commencé à vouloir un projet ensemble, on en a jasé, puis peu à peu, c'est construit Farouche.
Ben oui, et je me demandais, est-ce que c'est encore surprenant pour certaines personnes du monde de l'humour et des médias d'avoir un podcast féministe puis qui n'invite pas des hommes cisgenres à leur table? Parce que c'est ce que j'entendais dans votre animation, vous le dites que les hommes sont juste admis dans la salle.
Ouais.
Est-ce que, bref, pourquoi selon toi ça en surprend encore et ça en fâche encore des hommes de ne pas avoir le crachoir pour un seul podcast pour l'instant?
Ben, pour l'instant, tu sais, on a vraiment pas tant de backlash au niveau de, tu sais, on n'a pas tant reçu ce commentaire-là. Puis, tu sais, Emna avait déjà fait le projet des Allumetières, qui était une soirée d'humour qui était seulement pour les femmes. Fait que, tu sais, au final, je pense que c'est relativement accepté, là, cette non-mixité-là. Tu sais, on n'est pas encore full connu, là. Tu sais, Richard Martineau n'a pas eu l'occasion de chier sur nous autres encore.
Il devrait inviter Sophie.
Oui, c'est ça. C'est super intéressant. Mais non, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu de chialeux, mais c'est des chialeux sur les espaces non mixtes, il y en a tout le temps. Puis ce monde-là, ben, tu sais, j'ai le goût de reprendre Yves-François Blanchette là, qui disait que quand il y a un chien qui jappe dans une fenêtre, tu continues ton chemin. Tu sais, t'as pas besoin vraiment de t'arrêter. Fait que, ouais, non, ça ne fait pas grand-chose.
Et ben justement, est-ce que le podcast, que vous avez eu des commentaires, est-ce que ça amène d'autres femmes à vouloir justement peut-être créer d'autres projets justement non mix pour vous et pour elles, justement? Est-ce que c'est de quoi que vous essayez de peut-être créer une certaine, comment dire, une certaine vague en fait de projets non mix?
Ah ben ça on l'entend déjà, on a vraiment des bons commentaires, là, des gens là, sont vraiment comme contentes que ce truc-là existe. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui avait pas de lieu aussi comme ça aussi de puis qui a un lieu drôle, puis tu sais quand on a fait, tu sais, moi puis Emna, on est aussi derrière la page pas de fait sur le pacing où on dénonce le boys club dans les soirées d'humour. Fait que tu sais, comme il y a beaucoup de féministes aussi que quand il a fallu l'histoire de Sonia Bélanger là, l'année passée là, la fausse humoriste qui avait été inventée par le Troquet à Gatineau pour rire de nous autres, dans le fond. Fait que il y a beaucoup de féministes, je pense, qui ont comme trouvé, moi pis Emna, en faisant comme « Oh my God, il y a des humoristes féministes qui disent des trucs que je pense tout le temps, tu sais. » Puis là, ça, on est en train de créer cette communauté-là. Fait que, tu sais, je sais pas si ça va faire des bébés encore, mais tu sais, on a vraiment un bon retour. On entend vraiment les gens trouver ça important. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr qu'on espère comme changer de narratif. Puis je pense que c'est C'est pour ça que je fais de l'humour aussi, puis pour ça que mon militantisme est un peu dans l'humour maintenant, puis dans mon art, parce que je me dis, changer le narratif, c'est en ce moment ce que je pense que c'est le plus important de faire. Ouais. Quand on montre que des projets comme ça sont drôles, sont efficaces, sont pertinents, ben là, je pense que ça encourage plus de femmes à parler tout haut, puis à prendre cette place-là, dans le fond, que nous, on prend.
Et en fait, qu'est-ce que j'ai rajouté? En fait, c'est aussi, j'allais dire à nos auditeurs que c'est pas parce que vous êtes un gars que vous n'êtes pas invité à écouter ce podcast-là. Pour de vrai, c'est très intéressant. Ça va devenir un podcast dans ma rotation là, de podcasts habituels que j'écoute là, parce que c'est très actuel. Votre segment, les nonos.
Wow, Eric, thanks for giving us your opinion as a white guy.
Et oui, effectivement. alors, par exemple, leur chronique sur les nonos du web, ça me fait penser un peu à notre trou de cul de la semaine et tout week, ça. Ouais. Très intéressant parce qu'il y en a de la merde sur Internet. Et là, ben, justement, tu m'as pris un peu de cours parce que je voulais en parler effectivement de pas de filles sur le pacing. De cette fameuse humoriste Sonia Bélanger là, qui a été créée par l'intelligence artificielle. Quelle idée stupide! Pourquoi, selon toi, il y a encore aussi peu de place faite aux femmes en 2024 en humour au Québec?
Au Québec. C'est très important de spécifier au Québec, mm-hmm. parce que on est en retard, là, genre mm-hmm. sur beaucoup, sur mm-hmm. plusieurs... Si on regarde le côté woke des choses, là, puis moi, j'arrive de... je suis un Anglais en cachette, là. Puis, tu sais, fait que je suis pas indépendantiste à la base, je suis devenu pas mal plus vieux dans la vie. Fait que, est-ce que le fait qu'on soit le nationalisme au Québec a fait en sorte qu'on est en retard dans tous ces côtés-là progressistes? Est-ce que. Et puis, Eric, puis moi, on a beaucoup de discussions là-dessus parce qu'on est, deux backgrounds très différents. Mais moi, je pose simplement la question. Genre, I beg the question, as I tend to do very much. Mais, genre, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, au niveau du Boys Club, je sais pas à quel point ça a une influence. T'sais, au final, je trouve qu'on a quasiment plus une influence française où, tu sais, nous, on s'est pas fait sur pacing, là, il y a tellement d'humoristes françaises qui nous disent « Oh mon Dieu, continuez, si vous saviez en France, on est encore plus loin de ça. » Fait que, tu sais, je sais pas à quel point le nationalisme a quelque chose à jouer. C'est sûr que, tu sais, on est quand même fermé par rapport aux États-Unis où les femmes prennent vraiment plus de place. Il y a vraiment plus d'humoristes femmes qui ont des grosses carrières aux États-Unis. Puis là-bas, je pense que ça arrive vraiment moins souvent qu'il y a aucune femme sur un pacing. Mais, tu sais, ici, le Boys Club, tu sais, c'est institutionnel au niveau de nous, ce qu'on a créé. Tu sais, l'école de l'humour est un Boys Club. Tu sais, là, en ce moment, je pense que depuis 2 ans, ils ont des cohortes paritaires, mais avant ça, il y avait extrêmement beaucoup de gars. Les gars étaient vraiment avantagés. Il y avait des fois une fille, deux filles par cohorte. Fait que je pense qu'on c'est plus au niveau institutionnel là, qu'on a vraiment... T'sais, l'humour au Québec est vraiment institutionnalisé au niveau de, t'sais, ben là, Juste pour rire est tombé, mais quand même, il y avait Juste pour rire, il y avait Comédia, slash Le Grand Rire à Québec, il y avait l'École nationale de l'humour, il y a la PIH qui organise les Oliviers, puis toutes ces institutions-là sont extrêmement ancrées du Boys Club, là, elles sont gangrénées par le Boys Club, fait que moi, je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on a de la misère à comme avancer, c'est qu'on a tellement gardé cette idée-là patriarcale que les gars sont plus drôles que les filles, on doit comme ramer dans genre une grosse vase pour juste arriver à comme un peu être au même niveau des hommes. Fait que ça, je pense que c'est plus au niveau comment on a créé l'espace humoristique au Québec. T'sais, aux États-Unis, c'est des comédie clubs, c'est plus séparé. T'sais, nous, ici, les comédie clubs, le premier est arrivé, c'est le bordel en 2015. Je veux dire, ça faisait depuis les années 70 que ça arrivait aux États-Unis. Puis aux États-Unis, c'est surtout des femmes qui avaient les comédie clubs. Fait que, tu sais, tout ça comme est vraiment différent. Fait que moi, je pense que c'est surtout l'institutionnalisation de l'humour qui a fait en sorte qu'on s'est comme... On s'est vraiment, là, on s'est calé dans un boys club dont c'est difficile de sortir.
Et, tu as fait l'école de l'humour. Est-ce qu'il y a un traitement qui peut être un peu différent aussi des femmes à l'école de l'humour? Comment c'est un peu cette... de plus en plus, je pense que les classes sont paritaires, mais est-ce qu'il y a quand même une... Justement, est-ce qu'on commence à formenter ce boys club-là dès l'école de l'humour?
Ah, complètement. Okay. Mais tu sais, c'est sûr que les gens vont dire autrement depuis que j'ai gradué. Tu sais, moi, j'ai gradué en 2017. Okay. Fait que c'est vraiment comme... Tu sais, moi, j'ai gradué avant MeToo, là. Fait que tu sais, on est vraiment dans un autre monde, là, au niveau de l'humour de l'humour. Fait que c'est sûr que ça a changé. Après ça, moi, mon expérience à l'École nationale de l'humour, c'est que c'était extrêmement un boys club, que c'était dur d'être une femme à l'École nationale de l'humour. Tu sais, pour donner un exemple, puis ça, j'ai appris que ce professeur-là le faisait encore jusqu'à récemment. On a le professeur de français à l'École nationale de l'humour. Lui, la Journée internationale des hommes, là, le 19 novembre, lui, il a décidé de genre donner des bières à tous les gars de la cohorte qui était majoritaire puis nous en donnait pas, puis lui il a dit haut et fort qu'il était masculiniste puis qu'il trouvait que les hommes prenaient pas assez leur place, alors qu'on était dans une cohorte où il y avait 10 gars pour 5 filles, puis même là 5 filles ils trouvaient que ça avait pas de bon sens comment c'était hot là. Fait que tu sais, il a donné des bières à tous les gars, il en a pas donné aux femmes. Puis, il voulait souligner la Journée des hommes, puis il l'a refaite là jusqu'en 2019 là. Fait que, tu sais, je sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, mais tu sais, ça, c'est comme un exemple, je trouve, tellement marquant à quel point même l'École nationale de l'humour en a rien à chier des femmes.
Puis même, même les femmes qui percent dans le domaine, on va critiquer la façon qu'ils comptent les jokes. Tu penses à comment qu'elle s'appelle? La première aux États qui a vraiment percé puis qui a eu...
John Rivers?
Non, je te parle de l'ère Netflix des humoristes. Là. En tout cas, sur South Park, il arrêtait pas de l'écœurer en disant que toutes ses jokes, c'est genre « My vagina. Mm-hmm. » Puis genre, tout ce qu'il disait, genre, il critiquait sa façon de compter ses jokes, c'est « Elle fait juste parler de son corps, puis c'est pas correct, puis ça nous rend mal à l'aise. » Puis c'était comme, il faisait une joke juste sur le fait de la façon qu'elle comptait ses jokes. Puis c'est comme, même quand une femme va réussir à genre... juste que par son humour va réussir à percer, on va dire c'est un DEI, genre, justement, on va dire c'est une diversity, on va dire c'est à cause des woke qui est rendu là. Non. Il est comme, il n'y a pas de façon pour vous autres de réussir puis juste le mériter puis juste être une personne drôle. Il faut toujours qu'il y ait une raison en arrière. Là.
Ben oui, puis tu sais, le nombre de fois où on a encore juste une fille par spectacle, tu sais, pas de fille sur le pacing, quand on a commencé ça, moi puis Emna, tu sais, Emna, au début, elle voulait mettre même quand il y a juste une fille, puis j'étais comme, Emna, sont pas prêts, là. Ils vont pas comprendre. Genre, c'est trop loin pour eux autres. Fait qu'on a décidé de faire juste pas de filles.
Ouais, ça doit être là, comme accès des backrooms, mis... ouais, c'est ça. Comme accès des backrooms avec des. Juste être une fille, ça doit pas être le fun non plus, là.
Non, ben, tu sais, ces gars-là, c'est pas mes amis. Tu sais, il y a des gars, mettons, tu sais, les gars plus de gauche, tu sais, les gars qui, comme, vont utiliser les termes masculinité toxique, tu sais, vont comprendre cette réalité-là. Eux, c'est mes amis, je peux leur parler, mais c'est sûr que la majorité des fois, ben, je suis la seule femme, je suis la seule gauchiste aussi, je suis la seule personne qui pense de même dans les loges. Tu sais, au niveau de la diversité, j'ai l'impression d'être un peu dans une intersectionnalité de genre, et je pense différemment, et je suis une femme. Fait que, tu sais, ça fait que, pour vrai, c'est pas mes amis, souvent, ces gars-là, je leur parle pas vraiment. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est quand, justement, on dit que les femmes parlent tout le temps des mêmes sujets. Hier, j'étais sur une soirée d'humour, puis sur 6 humoristes, il y avait seulement moi comme femme, puis sur les 5 gars, il y a 3 gars qui avaient le même numéro sur le fait que, genre, « Oh, mon Dieu, les parents, aujourd'hui, ils laissent vraiment faire ce qu'ils veulent aux enfants, puis ça n'a pas de bon sens. » Il y avait 3 gars qui parlaient de ça, tu sais. Fait que je trouve ça toujours drôle quand on dit que les femmes parlent tout le temps de la même affaire, alors que quand moi, j'en parle mes collègues humoristes, je suis comme, vous avez les mêmes sujets, les chums, qu'est-ce que vous faites? Fait que, non, c'est ça, c'est une drôle de dynamique encore aujourd'hui, puis j'essaie d'un peu me détacher de ça, puis tu sais, je fais pas ça pour mes collègues au final, là, ce métier-là, je le fais pour le public, puis je le fais parce que j'aime cette connexion-là avec le public, parce que si je le faisais pour mes collègues, ça ferait longtemps que je serais plus ça dans la vie.
Puis t'as dit quoi de super important aussi, c'est ça, la communauté.
Oui.
Puis de la façon dont tu l'as présenté tantôt, ça m'a vraiment fait penser encore une fois à mes années punk rock. Mais tu sais, si tu veux une communauté, puis il n'y en a pas, tu la crées. Mm-hmm. On l'a fait nous-mêmes, puis c'est ça que tu es en train de faire.
Mm-hmm. Exact.
Pas. Fait que tu sais, c'est une belle vague, puis c'est le fun à voir, pour vrai. Là.
Et justement, dans la communauté que tu es en train de créer, Coralie, que ce soit sur le web, en étant un activiste un peu humoriste et tout ça, comment as-tu vu ton évolution, en fait, qu'activiste sur le web, tout seul, est-ce que là, maintenant, tu te permets plus de faire des publications qu'avant? Bref, comment ça a été cette évolution-là, de la page Instagram de Nanar Coco?
Ah, oh, mon Dieu, c'est drôle parce que c'est tout le temps été, comme je disais, c'est tout le temps une seconde nature là, pour moi. Là, moi, je serais pas bien avec moi-même si je parlais pas de ces enjeux-là. Tu sais, moi, ce qui me fait bien dormir la nuit, c'est de dénoncer, par exemple, le génocide en Palestine. Si j'en parlais pas, je me sentirais pas bien. Il y a des gens qui voulaient pas en parler parce que c'est les fameuses personnes qui pensent qu'il y a deux côtés de la médaille, là, alors que comme non. Mais tu sais, moi, je serais pas bien si j'en parlais pas. Puis au début, c'était sûr que c'était difficile parce que j'avais peur que ça me bloque des contrats. Puis que ça. T'sais, on me dit beaucoup que genre être politique, ça va te fermer des portes, ça va être plus difficile puis tout ça, mais tu sais, moi j'ai toujours continué parce que je me suis dit ben tu sais, moi c'est ça que j'ai à offrir, puis si j'offre pas ça, tu sais, je pourrais pas sell out, là, je serais pas, tu sais, je suis capable d'écrire pour les autres, mais mettons pour moi, il faut que je dise ces affaires-là sur la scène. Fait que pour moi, c'était comme impossible de faire autrement, puis plus ça va, plus je le vois en fait que non seulement c'est, ben oui, ça m'a fermé des portes, mais ça m'en ouvre d'autres. Fait que plus ça va, plus ça me fait plaisir d'en parler, puis mon évolution est allée juste de m'assumer pleinement, parce qu'au final, quand j'ai des contrats aujourd'hui, ben j'ai des contrats parce que c'est ça que je dis sur scène, tu sais. Fait que tout ce que les gens disaient que ça me fermait des portes, ben tu sais, oui, peut-être là, que je suis pas dans des, tu sais, au final, en plus, il y a plus d'émissions d'humour là à cause qu'il y a eu trop de gars cancellés. Mais c'est vrai, en plus, ouais. les productions télévisuelles veulent plus investir dans l'humour parce que c'est un risque, parce que les gars sont des agresseurs. Fait qu'ils ont arrêté d'investir là-dedans. Fait que, tu sais, à la télé, en ce moment, tu sais, oui, il y a des chroniqueurs, là, dans des trucs ici et là, mais il y a plus vraiment d'humour à la télé comme il y en avait dans les années 2000, déjà. Fait que, tu sais, ces contrôles-là télé, ben, ça me dérange pas de pas les avoir parce que, de toute façon, il y en a très peu. Puis éventuellement, je pense que je vais les avoir grâce au fait que, justement, je parle des trucs qui me concernent, puis je suis unique dans ce que je fais. Fait que, tu sais, ça a pris un temps un peu à le réaliser, mais maintenant, tu sais, si j'ai des contrats, ben, tu sais, j'ai des contrats de Québec solidaire qui veulent que je vienne faire de l'humour, j'ai des contrats de la CSN, j'ai un contrat, on est allé faire Farouche à la FTQ, tu sais. Fait que maintenant, mes contrats, c'est des contrats parce que je dis ces affaires-là, tu sais. Fait qu'au final, l'évolution est vraiment arrivée de pouvoir être moi pleinement, puis c'est comme vraiment un peu cliché, là, de genre sois toi-même, puis ça va fonctionner.
Mais il faut être cliché, puis on se répète tout le temps sur le podcast, puis on le dit tout le temps à même affaire, ben oui, fuck les milliardaires, ça vient cliché à un moment donné, mais Chris, faut le dire à un moment donné, là.
Ben oui,
faut pas arrêter de le dire.
Non, puis les clichés sont quand même ancrés dans une réalité, là, tu sais, comme c'est un ça. Peu comme quand quelqu'un est en peine d'amour, puis t'es comme ben oui, c'est en peine d'amour, puis écoute des tunes de peine d'amour, puis ça va te faire du bien parce que c'est toute la même réalité. Mais autant que c'est la même réalité de comme si t'es un artiste, la seule chose que tu peux proposer, ben c'est ton unicité, tu sais. Fait que c'est pour ça que je l'ai juste plus trouvé, puis mon unicité, ben c'est une fille en tabarnak qui a envie de parler de ces enjeux-là. Fait que je fais juste continuer à le faire.
Et en terminant, Coralie, justement, j'ai une question un peu cliché pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui veulent se lancer justement en humour politique? Qu'est-ce que ce serait important pour eux, à part de suivre leur cœur?
À part d'être soi-même, c'est ça. Suivre ton cœur. À part ça, là. Genre.
C'est ça. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme étape là, pour commencer? Là?
Ben, tu sais, je vais le répéter même si tu vous dites à part ça, parce que c'est vraiment important de penser à ce que toi, tu veux faire comme humour, parce que si tu essaies de... Ben, c'est sûr qu'au début, on essaie de copier les autres, parce que c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. En copiant puis en essayant de faire comme l'autre. Fait que tu sais, je dirais de oui faire ça au début, d'apprendre à être soi-même, ben aussi de pour vrai lire des livres là, puis lire en masse puis de côtoyer aussi ces gens-là. Je pense que les gens qui sont un peu déconnectés de la réalité militante, mettons des fois c'est parce qu'ils sentent, tu sais, ils baignent pas là-dedans. Fait que je dirais de genre vraiment baigner et dans l'humour et dans la gauchitude, là, que ce soit en lisant des livres, en militant, en parlant des militants, en ayant une communauté. Mais ouais, ça serait vraiment de baigner là-dedans, puis de m'amener faire des jokes, puis de se planter. Il faut se planter en humour, puis il faut pas avoir peur de se planter, puis il faut vraiment comme se construire sa carapace, que genre, justement, m'amener, tu vas aller faire un corpo à Bromont, puis les gens seront pas d'accord avec tes propositions, mais que c'est pas grave, tu continues pareil, tu sais, puis de trouver les humoristes comme toi aussi, là, d'aller les voir, de dire que tu veux participer à leur soirée aussi, d'aller vraiment comme chercher les gens qui sont comme toi. Éventuellement, ça encourage. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut commencer l'humour demain matin, mais tu sais, il faut qu'il aille voir Farouche live, faut voir qu'est-ce que nous on fait. Il faut qu'il aille voir tu sais, plein d'autres humoristes qui sont pleins de talent, là. Tu sais, je pense à Colin Boudria, Alexandre Forêt, Coco Béliveau, mon ami Emna Achour, Louis T. Fait que tu sais, T'sais, il faudrait aller voir ces gens-là aussi, puis voir qu'est-ce qu'ils font, puis s'inspirer après ça de leur démarche, puis la faire par soi-même, puis partir de soi, puis éventuellement... Puis pas nécessairement faire l'école de l'humour. Moi, je recommande pas l'école de l'humour pour les gens qui ont des trucs politiques à dire, parce que c'est pas ça que l'école va encourager. Mais peut-être que je me trompe aussi, je sais que les profs ont changé. Mais je dirais vraiment à la personne de c'est ça, baigner dans l'humour et baigner dans la gauchitude, ça va marcher.
Et en plus de ton projet, ton excellent podcast Farouche, la page Instagram Anar _ Coco et la page également Instagram Pas de filles sur le pacing. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te voir dans les prochaines dates? Là, tu mentionnais un show à Sherbrooke bientôt, là, en ronde, là, tout à l'heure.
Oui, je vais être le 13 à Sherbrooke. Sinon, ben c'est vraiment dessus mes pages pour voir dans mes prochains shows. Je vais aller à Québec le 11-12 avant avril, si les gens habitent à Québec. Sinon, ben c'est de me suivre et de checker ça. Sinon, la balado de Fred Savard. J'étais chroniqueuse au 24 heures. Malheureusement, la crise des médias a eu raison de mon poste. Fait que ils ont slacké le monde rapidement. Mais c'est bon, c'est bien correct, c'est la vie. Mais sinon, ouais, juste checker ce que je fais. Puis j'encouragerais aussi les gens qui sont, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont, je sais pas, là, dans leur comité étudiant, à l'université, puis ils organisent des événements, ben ils peuvent toujours m'écrire. Je suis encore dans la relève, donc toujours besoin de contrat. Fait que toujours moyen de m'inviter quelque part. Si vous voulez que je vienne quelque part, là, quand on m'invite, ça me fait plaisir.
C'est quoi sur la carte d'affaires? Tu fais aussi de la consultation, je pense?
Oui, je fais de la consultation militante, puis de la consultation en communication politique. Fait que, tu sais, mettons, il y a des groupes de défense des droits communautaires qui m'ont engagé pour avoir mon two cents pour les réseaux sociaux, puis que je les aide au niveau militant. Je fais aussi de la formation de porte-parole. Fait que, tu sais, même s'il y a des militants, tu sais, je pense à des organismes comme Mère au front, des maisons des femmes ou des... justement des organismes en défense des droits, ben ça aussi, je peux les aider avec ma grande expérience militante. Fait que si jamais il y a des gens qui ont besoin de ça, je suis là.
Puis on va se le dire, il y en a de la gauche, là, ils sont cringe, là. Ils ont besoin d'aide. Là. Oui. La communication puis du PR, je pense. Là.
Hey, oui, c'est la
plus ça avec tout mon amour.
oui, non, on est plein d'empathie puis tout. Puis des fois, tu fais comment, le monde sait pas comment faire une story. Là, faut en parler, ces affaires-là. Ouais. Fait que oui, je suis disponible pour aider les gens au niveau de la communication aussi.
Bon, ben c'est parfait.
Ben, merci beaucoup, Coralie Laperrière, pour ton temps aujourd'hui.
Merci.
Alors, merci beaucoup à Coralie Laperrière d'avoir été là avec nous. Et là, ben c'est déjà la fin de ce canton de l'œuf. Ce canton de loft. Alors, ce qu'on vend maintenant, on est maintenant des agents immobiliers. C'est alors, Christ. On vend également des lofts. Alors, cette émission de canton de l'œuf, alors, qui est un petit hors-série, hein?
Ouais,
un petit hors-série.
On sait qu'on vous en laisse, on vous laisse le tu sais, j'espère que vous avez aimé ça. Mm-hmm. On sait que vous avez soif de d'autres contenus, que vous avez faim de savoir ce qui se passe dans nos vies. On va revenir éventuellement bientôt, puis on va vous donner toutes les nouvelles là-dessus. En attendant, on vous rappelle nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Anar Coco, Anar _ Coco, pour plus d'informations. Puis, that's it for me. I don't know, Eric, did you have anything else?
Je vais dire liker Canton de l'EF, la page Instagram, puis la page Facebook.
All right.
Hey.
Et ciao.